Très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin, un SMD qu'on pourrait appeler tranche de vie, avec un focus tout à l'heure sur le paratennis à Bressuire, Stéphane Houdet, le champion de paratennis, et puis Julien Texier également, jeune chapelet qui pratique maintenant le paratennis. Il nous expliquera aussi ce qu'il éprouve dans cette pratique et puis pourquoi il en est venu au paratennis. Rencontre aussi avec un sexagénaire qui revient du marathon de Valence en 3h34, mais comment fait-il, Pascal Vergniaud? Il viendra nous expliquer ceci. Et puis, ce matin, dans ce studio, je suis très très heureux d'accueillir Sébastien Cuvier, l'entraîneur du football club de Nueil-les-Aubiers, une équipe qui va très très bien et un coach que j'ai plaisir à rencontrer. Bonjour Sébastien.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Merci beaucoup de passer ce SMD en notre compagnie.
Sport Matin dimanche avec Cyrière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Et ça tombe bien, Sébastien, puisqu'on a toujours d'ordinaire l'habitude de débuter ce SMD avec la page football. On va d'abord parler des résultats de Ligue 1, les trois matchs qui se sont déroulés dans le cadre de la 15e journée, le 0-0 entre Montpellier et Lens, Monaco qui s'impose à Rennes 2-1, et puis hier soir, le Paris Saint-Germain qui bat Nantes sur ce même score de 2-1. Cet après-midi, à 13h, Nice accueille Reims. À 15h, c'est Clermont qui reçoit Lille. C'est Metz qui accueille Brest, c'est Strasbourg qui jouera à la maison face au Havre. À 17h05, Lyon sera opposé à Toulouse, et puis ce soir à 20h45, Lorient face à Marseille. Avant d'évoquer plein d'actualités avec Sébastien, coach du FC Nueil-Aubiers, cette Ligue 1, vous la suivez évidemment, Sébastien?
Oui, bien sûr, je la suis, comme tout amateur de foot et qui plus est entraîneur. Ouais, c'est une Ligue 1 qui est quand même assez relevée encore, même si les écarts se font pas encore assez larges. Mais bon, on a un PSG qui va dominer ce championnat naturellement, et on l'espère qu'il va se qualifier pour la Ligue des Champions.
Vous êtes supporter d'une équipe en particulier ou pas, vous, le Normand?
Bah, depuis que le Havre est remonté en Ligue 1 automatiquement, je suis né là-bas, donc j'ai été formé là-bas, donc ça fait plaisir de retrouver la Ligue 1 avec mon club de cœur. Je vous avoue, avec Marseille, un petit côté cœur aussi depuis la Ligue des Champions, et puis par amitié sportive et connaissance, le RC Lens, que je suis ami avec Franck Hez, le coach.
Sébastien, vous avez un riche passé de footballeur, vous avez 53 ans, vous avez été un buteur, meilleur buteur du championnat de national, c'était en 95-96 avec 22 buts, vous étiez un serial buteur en fait, c'est ça?
Oui, on peut appeler ça comme ça, un joueur de surface, mais qui aimait bien aussi être dans la construction des actions, d'où cette année-là de A3 où j'évolue en 9,5, donc j'ai participé aux actions et à la finition, donc j'avais comme coach Alain Perrin, qui avait su déceler pas mal de qualités chez moi dans la construction, dans la finition, donc ouais, j'ai toujours marqué mes buts au niveau national.
Et comment ça s'est décrété, quoi? Cet instinct de buteur, vous l'avez eu très tôt?
Racontez-nous. Oui, très tôt, depuis tout petit, j'ai toujours marqué des buts, quoi. C'est un poste que, je voulais aller marquer des buts. Je voulais pas aller dans les buts, je voulais marquer des buts.
Et jamais de Ligue 1, jamais de première div? Parce que quand, on est d'accord, 22 buts en national, et puis il y a eu d'autres saisons où il y a eu plein de buts aussi. Là, j'ai relevé, parce que c'est votre record, c'est vous qui détenez le record. J'imagine que les clubs ont dû frapper à la porte de la maison Cuvier.
Oui, il y a eu après des négociations avec le Guingamp, qui était à l'époque en Ligue 1. Mais moi, j'avais 25 ans, je sortais de 22 buts en national, on montait en Ligue 2 avec 3. Et avec mon agent, j'avais une proposition pour signer en Ligue 1, mais comme quatrième attaquant. Donc moi, j'ai pas voulu tenter l'aventure d'aller jouer en Ligue 1, voire en réserve, pour rester avec mon club à l'Estac à 3, qui finalement ne s'est pas fait, puisque j'ai atterri à Istres en National et non en Ligue 2. Voilà, la raison d'un agent pas très cool.
Des regrets?
Oui, énormément. Énormément de regrets quand on voit le parcours des garçons qui figuraient avec moi en national et cette montée, qui ensuite ont fait la Coupe Intertoto. Que ce soit Dehon, Jezierski, Nomo Bradja, il y en a plein, tous.
Ouais. Vous parlez de ce club de cœur, le Havre, le Athletic Club, qui va bien, hein, qui fait une bonne première partie de saison, c'est bien pour un promu.
Un club loyal, oui. C'est le club doyen.
Le club doyen, oui. Et en plus, je regarde votre tenue du FC Noyobi, vous avez un peu les couleurs océanes, là. Hein.
Ouais, je suis assez attiré par le bleu. Oui, oui, non, c'est un club qui revient bien dans l'élite du foot professionnel avec un jeune coach, voilà, qui est pas trop réussi à Amiens. Et puis Mathieu Bonnemer qui fait du bon boulot au niveau du recrutement. Et il y a toujours cette formation à Vresse qui est derrière pour sa jeunesse. Et voilà, ça reste quand même un exemple de formation.
On parle de Coupe de France également. C'est l'actualité de ce week-end footballistique avec un tirage au sort qui aura lieu demain, hein, demain soir 19h au pavillon Dauphine à Paris pour des 32e de finale qui se dérouleront eux les 6 et 7 janvier. 32e de finale, ça signifie l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Des surprises, il y en a eu pour ce tour de ce week-end. Il y a des matchs cet après-midi, mais la première grosse surprise, c'est quand même l'élimination de Saint-Etienne. Il est vrai que Nîmes évolue en national. Les crocodiles l'ont croqué en quelque sorte les Stéphanois. Victoire et qualif pour l'équipe du Gard, 1-0. Et puis on notera que Thionville, une N3, a battu Annecy, pensionnaire de Ligue 2, 2-1. Chambéry, National 3, a battu Grenoble, une équipe qui va pourtant bien dans le championnat de Ligue 2. Qualification au tir au but pour les Chambériens, 5 tirs au but à 4. Et enfin, Orléans s'est imposé à Ajaccio face à l'AC Ajaccio, 2-1. La Coupe de France, ça éveille des souvenirs aussi, Sébastien ?
Oui, cette participation en tant que joueur au 32e de finale. Voilà, avec mes clubs respectifs et puis trois participations au 32e en tant que entraîneur, notamment la dernière en 2012 avec le FC Dieppe contre Nantes d'ailleurs à domicile, on avait perdu 3-2. Nantes qui était en ligue première ligue 2 à l'époque.
C'est des bons souvenirs. Alors bons souvenirs en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, qu'est-ce qu'on a, on ouais, les c'est... a tous appréciés.
Ouais, après c'est différent, joueur oui, ça reste des super souvenirs. Bon moi le dernier c'est celui de Nantes hein. On avait fait un super match avec une super saison à la clé puisqu'on était monté en CFA. Les gens, et d'ailleurs Dieppe qui accède au 32e une nouvelle fois. Mais oui, ça reste des super souvenirs. Ouais.
Les Herbiers joueront ces 32e de finale puisque les Herbretais se sont imposés à Saint-Brieuc 2-1. Billy et Rennes et Rémi pardon pour les buteurs vendéens. Les Herbiers donc qualifiés et puis qualification dans la douleur mais quand même pour Angesco en déplacement au Plessis Robinson, une équipe de R1 qualif 2-1 pour les hommes de Dujeu et puis le Stade Lavallois se qualifie également face à l'US Philibertine, pensionnaire de National 3, un peu dans la douleur aussi les hommes d'Olivier Frappoli passent et se qualifient 2-1 et puis Coupe Gambardella et là je sais Sébastien la Gambardella vous l'avez gagnée.
Oui, j'ai gagné avec le Havre en 89, le 25 mai 89, au stade Geoffroy Guichard contre le PSG au pénalty.
Voilà. Buteur ?
Non, remplaçant. À l'époque, il y avait 3 années junior.
Ah oui.
J'étais junior 2 et voilà, j'étais remplaçant et 2 remplaçants, 12 et 13e. Et donc c'est un formidable souvenir, pratiquement le meilleur souvenir en tant que pour les jeunes, voilà, qui ont la possibilité de la gagner. C'est l'équivalent de la Coupe de France senior. Hein.
Vous avez les dates en tête comme ça, c'est
ah oui,
ouais,
oui, j'oublie rien, j'oublie rien de ce que j'ai fait dans le foot. J'ai tout même, voilà, j'ai tout noté, tout ce que j'ai fait. J'ai un pressbook, j'ai 2 grosses cantines chez moi qu'il faut déménager à chaque fois.
avec des maillots aussi.
Ouais, les maillots aussi sont dedans. Oui.
On parle de la Gambardella pour Gatti Foot. Qui aurait dû jouer hier face à Trélissac. Cependant, le match a été annulé pour cause d'intempéries. Sage décision, hein, et Gatti Foot a bien joué et a bien fait les choses puisque la décision a été prise très tôt hier matin pour éviter le déplacement des Périgourdins, pour éviter que Trélissac ne vienne jouer face à Gatti Foot. Le seul problème, c'est que le report du match, eh bien, pourrait, la fédération semble assez intransigeante, pourrait avoir lieu mercredi. C'est ce qu'on leur a dit au téléphone et vous imaginez bien Gatti Foot qui joue un premier tour fédéral, c'est quand même historique sur sa pelouse, jouer mercredi, le coach va falloir alors c'est pas encore acté mais ça pourrait l'être. Le coach faut qu'il prenne un jour, les joueurs seront pas tous disponibles. On préférerait évidemment que la fête ait lieu samedi prochain et Trélissac aussi apprécierait de venir jouer dans nos Deux-Sèvres samedi prochain. C'est un peu bête parfois ces décisions.
Ouais, ça peut gâcher un peu la fête, hein, jouer un mercredi au lieu d'un samedi ou un dimanche, hein, malheureusement. Et j'espère pourtant qu'ils vont être un peu conciliants par rapport à... Alors non pas par rapport au niveau de Gatti Foot, mais par rapport au match qui peut être en début de semaine.
Ça va être un super souvenir pour ces joueurs de Gatti
Foot. Indéniablement.
Hein, jouer une nationale, jouer Trélissac, même si on prend une tôle, c'est pas grave. Puis c'est pas fait.
Non, c'est pas fait. Non, parce qu'au début du match, on est toujours. Je pense que les joueurs sont concentrés. Après, le résultat fera que l'histoire du match fera qu'il y aura un résultat positif ou négatif. Mais on souhaite à Gatti Foot de pouvoir rivaliser face à cette équipe de Trélissac. Oui.
Vous êtes dans nos studios, Sébastien, et le plaisir est immense parce que aussi c'est l'actualité. C'est ce club de Nueil-Aubier qui va très très bien dans son championnat de R1. Il y a match cet après-midi face à La Rochelle. Attention, hein, on se prend pas les pieds dans le tapis, hein, parce qu'on parle de Nueil-Aubier. Vous êtes notre invité ce matin. Pas d'enflammade. Et je me doute que l'entraîneur que vous êtes va arriver dans les vestiaires en disant. Non, peut-être pas en disant, et les gars, j'étais sur colline, mais en disant, les gars, il nous reste un match, c'est le dernier qui vient, La Rochelle, on est prudent, il faut qu'on soit deuxième ce soir, mais on s'enflamme pas. C'est ça le discours?
Oui, c'est le leitmotiv cet après-midi, c'est notre dernier match à domicile de la saison, enfin, de l'année civile. C'est vrai qu'on est sur une bonne dynamique, recevoir le dernier peut faire aller dans les têtes un peu de suffisance, mais bon, hors de question, il faut que les garçons soient consciencieux et studieux sur le terrain, et je compte sur eux. Et puis avec les matchs reportés de la réserve et notre équipe 3, je pense qu'on aura un meilleur public en nombre, et puis pour bien finir l'année et passer les fêtes au chaud, et comme vous dites, peut-être avoir cette deuxième place.
C'est assez surprenant d'ailleurs de retrouver La Rochelle dernier du championnat. Ils ont longtemps joué les premiers rôles l'année dernière. Ils ont dû recruter un garçon là. J'ai vu Philippe Violo, le président.
Oui, ils ont changé de coach en début de semaine. C'est un garçon qui est passé par Rouen, que je connais pas plus que ça. Mais bon, faut pas oublier, ils ont battu Guéret la semaine dernière. Guéret, que nous avions joué la semaine d'avant, qui nous avait fait beaucoup souffrir d'ailleurs. Donc non, méfiance, ça reste toujours un match difficile de jouer, entre guillemets, les derniers du classement. Mais je pense que cette équipe n'est pas dénouée de qualité.
On parle du championnat national 3 avec la Châtaigneraie qui s'est imposée hier face à Château-Gontier 3-1. Fabien Gazot était sur le bord du terrain et il a interrogé le double buteur de cette rencontre, à savoir Pierre Grelier, satisfait évidemment de cette victoire des Vendéens.
Un match très important pour la suite de notre saison là, pour passer un Noël un peu plus tranquille. Mais voilà, c'est une victoire très importante. On a réussi d'avant-temps de match sur une action, sur une contre-attaque, à faire prendre un rouge à l'adversaire, donc c'était important. Et après, ça nous a un peu ouvert la première mi-temps. Dans deuxième mi-temps, voilà, dans ce genre de match, on a déjoué un peu, on a eu du mal, on s'est fait un petit peu peur quand ils sont revenus au score à 2-1 vers la 70e. Et on a réussi à mettre le but du 3-1 à la fin qui a vraiment fait du bien à tout le monde.
Ouais, le Châtaigneraie qui sort un petit peu la tête de l'eau. Ils sont actuellement 9e avec 12 points, 3 victoires, 3 matchs nuls et 5 défaites. Et un Pierre Grelier qui apprécie également sa première saison avec cette équipe de la Châtaigneraie.
On trouve beaucoup de temps de jeu à la Châtaigneraie, ce qui m'a manqué un peu la saison dernière. Et voilà, le doublé vient arrondir les stats pour qu'elles soient vraiment meilleures maintenant. Donc ça fait du bien en espérant que ça continue.
Alors avec une intégration réussie. Hein.
Oui, une intégration réussie. C'est un club très familial avec des joueurs qui sont très vite intégrés, nous les recrues. Donc il n'y a pas eu de problème avec ça.
Et Pierre Grelier que vous connaissez, hein, Sébastien?
Oui, que je connais bien, puisque bon, il est souvent dans le championnat du fiston, quoi.
Oui, on va en parler justement. Le Poiret Survie qui s'est imposé hier soir face au Sable d'Olonne. Jordan, le fils de Sébastien, évolue attaquant, bien sûr. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne ou une formule qui gagne. Serait-on tenté de dire là le tel père, tel fils? Ça, c'est vraiment le cas. Le Poiret qui s'impose 2-0 face au Sable. C'était pas un beau match, Sébastien?
Non, j'ai suivi ça à la télé, j'ai pas trouvé un match emballant. 2-0 au bout de 20 minutes, puis après le Poiret a pratiquement refusé de jouer en essayant de jouer des comptes, mais bon, c'est pas mes options de jeu, malheureusement. Donc j'aurais aimé que le garçon puisse avoir quelques occasions qu'il n'a pas eues ou il n'a pas pu se procurer. Mais bon, c'est comme ça. La Châtaigneraie qui sera le prochain adversaire du Poiret.
Ah, très bien, un beau derby là encore du côté de la Vendée. Le fiston qui était à Poitiers, qui était à Angoulême, qui fait sa première saison.
Deuxième
saison du côté du Poiret, qui va bien. Enfin, il marche bien, hein, Jordan?
Oui, il marque pas mal de buts, il marque ses buts, il doit être à 10 buts là, je pense. Non, c'est un garçon qui se plaît depuis qu'il est arrivé il y a 2 ans. Voilà, une vie de famille qui est stable, et puis oui, il se plaît bien. Il envisage, il se fait construire, donc il est posé, voilà.
On n'a pas de sentiment, enfin je sais pas, est-ce qu'il a pas envie de gravir les échelons, il connaît, il a déjà peut-être évolué en National 2, mais il a pas envie d'aller frapper un petit peu plus haut,
Mais la bouteille nationale avec Chambly, il était plus jeune.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai une question d'un auditeur de Chambly. On y reviendra tout à l'heure.
Donc, voilà, il a fait Angoulême sur la N2, Poitiers sur la N3. Il a toujours marqué ses buts. Non, je pense que là, arrivé à 29 ans, il a un cadre de vie qui se plaît vraiment au Poiré. Alors après, si l'ambition venait de monter, bah, il montera avec son club. Mais je pense qu'il s'est posé, il a pas mal bougé aussi, il a vécu quelques galères aussi dans les clubs, mais il a toujours marqué ses buts, toujours.
Vous retrouvez en lui ?
Non.
C'est vrai que vous avez des joueurs un peu différents ?
Ouais, il est déjà beaucoup plus grand, c'est le profil Giroud, mais il est beaucoup plus adroit que son père devant le but encore.
Oui. Ça parle que foot quand vous vous retrouvez ? Enfin, ou souvent foot ?
Souvent, mais non, bah maintenant qu'il y a la petite fille, donc prend beaucoup de place, voilà. Et encore hier après le match, il m'appelle, mais voilà, je suis encore un peu critique, c'est vrai, mais beaucoup moins qu'avant. Voilà, il a tracé sa voie et il a fait son prénom.
National 3, on termine avec la défaite des Chorésiens qui ont du mal depuis ce tour de Coupe de France face à Pau. Et à l'inverse, Pau, vous avez vu, hein, Pau et Nicolas Uzaï qui caracole, hein, qui va bien dans ce championnat de Ligue 2. Choré qui a perdu à la maison face à Fontenay-le-Comte 2-0. Vertoux et Saint-Nazaire ont fait match nul, 1-0. La réserve de Niort a chuté face à Sablé, 3-0. Et puis Chaland, match reporté. Et puis Nantes également, la réserve nantaise n'a pas joué face à Saint-Philbert. Le classement, c'est Vertoux qui est en tête. C'est le Poiré qui est deuxième avec 20 points. Un match de retard pour les genoux du Poiré Survie. Bas de classement, Château-Gontier avant-dernier avec Saint-Nazaire. Et c'est les Sables d'Olonne qui ferment la marche de ce championnat avec 6 points. On marque une pause pub dans ce Sport Matin Dimanche. Vous êtes plutôt croissant ou pain au chocolat, vous, Sébastien ?
Croissant.
Bon, ça tombe bien. Merci. Il y en a dans la poche juste devant vous. Allez, à tout de suite. Bonne matinée à tous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Peut-être êtes-vous avec nous depuis 10 heures. On parle de foot avec Sébastien Cuvier, qui est notre invité fil rouge, l'entraîneur du FC Noyobier, une équipe qui va bien. On a envie de percer le mystère Cuvier, en fait. C'est pour ça que Sébastien, on vous a invité ce matin. On a envie de savoir pourquoi ça va bien du côté du FC Noyobier. Et puis, on sera également avec le paratennis. On a une belle séquence à vous proposer. Et puis aussi avec Pascal Vergniaud, marathonien, sexagénaire, 3h34 au marathon de Valencia en Espagne. Rien que ça, et puis Laurent Villa tout à l'heure également avec nous pour parler de cette défaite d'hier soir, la 6e consécutive dans le championnat de première division, la Betclic Elite en basket. On parlait, Sébastien, de la National 3 avec votre fiston Jordan qui évolue au Poiré Survie. On avait Jean-Michel Rouet qui connaît bien Jordan, hein, puisque Jean-Michel est avec le club de Chambly, qui disait Jordan au FC Noyobier pour ensuite monter en N3, est-ce que ça peut être envisageable ou est-ce que c'est pas du tout envisageable tout.
Non,
je vous taquine, mais dites-vous.
Je sais bien, non, c'est pas du tout envisageable par rapport à la situation de Jordan et son projet de vie et sportif et professionnel, voilà. Après, il est déjà venu au stade 3-4 fois déjà. Ouais, il est même invaincu quand il vient. Donc, il est le bienvenu.
Il est là cet après-midi ou pas ?
Peut-être. Hein ? Peut-être. Voilà. Donc, non, faut être raisonnable. Mais je suis déjà très content de mes attaquants. Donc, qu'il faut encore que j'arrive à performer encore.
Eh bien, justement, c'est quoi ce secret ? Qu'est-ce qui fait qu'on manque le début de saison avec 2 défaites pour le FC Noyobier en R1, 2 défaites lourdes, un 5-1 et puis un 4-1, Rochefort et puis le FC Bressuire. Et puis après, tout se met en route, on a l'impression que les planètes s'alignent bien. Et puis aujourd'hui, Noyobier peut être, avant la trêve, la seconde du championnat. C'est quoi le secret, Sébastien ?
Bah, faut refaire l'historique. Déjà, j'avais dit dans les médias que la préparation avait été tronquée, puisque sur 6 semaines de prépa, j'avais quoi 12-14 joueurs à disposition, donc entre ceux qui sont en congé, qui reviennent d'autre part, des blessés, c'était très difficile, on l'a vu dans les matchs amicaux. Et puis bon, un premier acte à domicile, on s'est tous complètement loupé. Ça nous a permis de prendre une bonne claque. Le match suivant, c'est Bressuire. J'avais dit qu'il serait trop tôt de rencontrer cette équipe-là. Ça s'est vérifié. Et puis, petit à petit, le groupe un peu plus conséquent, l'émulation. On arrive avec un match contre Buxerolles où, quand même, on joue sans gardien. Enfin, sans gardien. Notre gardien est expulsé à la 10e minute. Donc, 80 minutes sans vrai gardien et à prendre le match nul à la dernière minute. Je pense que ça a été un déclic par rapport à la force mentale des garçons et puis de la performance individuelle au poste, donc collective, et puis des options de jeu un peu plus comprises de la part des joueurs, un investissement, un volume de jeu aussi, donc tout se met un petit peu en route et une assise défensive voilà qu'on a retrouvé depuis quelques matchs.
Et puis un groupe qui s'est étoffé aussi.
Oui, un groupe qui s'est étoffé, qui s'est étoffé parce que j'ai récupéré Mouloud, Pierre aussi, Pierre Jauneau qui a pas été là pendant 2 mois, il a le bras cassé, et puis dernièrement l'arrivée de Tairou Endo là qui est un profil qu'on n'avait pas au milieu dans le registre de l'impact physique pour la R1 au milieu, c'était important, voilà.
Je me suis un peu renseigné, Sébastien, quand j'ai dit à mes contacts que je recevais Sébastien Cuvier, les gens m'ont dit mais c'est un super garçon, il a un réseau long comme le bras.
Oui, même en R1 annuel au biais, j'arrive à faire venir des joueurs. Je parle pas que Tairou, parce que on a un garçon comme Alex Tricouard qui a vécu 2 saisons difficiles, que ce soit blessure oratoire, que j'ai récupéré au mois de juillet. Voilà, c'est un garçon qui voulait arrêter le foot. Donc j'ai eu un discours positif en lui disant qu'il fallait qu'il revienne à la maison. Et puis que je sentais que ça pouvait être une très bonne saison. Et pour l'instant, il s'avère que depuis le début de saison, il est performant et il marche sur l'eau, comme on dit. Mais au même titre que Flo Mazière, Étienne, voilà, Pierre, donc qui reviennent sur un endroit qu'ils connaissent aussi. Donc c'était un choix aussi de recrutement par rapport à l'identité du club et puis ne pas perdre de temps dans l'adaptation.
Et il était important pour bien équilibrer cet effectif de faire venir des joueurs un peu aguerris, hein, je pense à vos dernières recrues là, des garçons qui ont évolué à Bourges, qui ont évolué à un bon niveau. C'était important à vos yeux de non pas pour perturber cet effectif plutôt local, mais de dire bon, il faut 2-3 piliers.
Oui, c'est important aussi de, comme vous dites, d'amener cette plus-value en termes d'expérience. Tairou a 28 ans et a joué à Bourges en N3 et voilà, il sortait d'une saison un peu plus difficile, mais voilà, le profil est intéressant, même si je pense qu'il est encore à 50% de ce qu'il peut faire. Et oui, c'est important d'avoir des joueurs cadres et piliers dans l'expérience. Je parle aussi à mon capitaine, hein, Flavien ou Flo Mazière, parce qu'on a quand même une équipe qui est quand même assez jeune. Hein. Ouais.
C'est votre deuxième saison. Oui. Est-ce que je me trompe? On avait un peu échangé à la fin de la première saison. Est-ce que je me trompe en disant que vous vouliez des garanties pour entamer cette deuxième saison et qu'à un moment donné, est-ce que vous auriez pu partir de Noyers-Billet à l'issue simplement de votre première saison?
Des garanties par rapport à la nouvelle réforme, voilà, qui nous tend avec 5 décembre, donc c'était un championnat relevé. Donc les dirigeants ont validé ces garanties. Partir, oui, j'aurais pu partir. Ouais. Maintenant, j'ai été très bien accueilli par le club de Noyers-Billet, les dirigeants, le comité. Il y a quelque chose qui s'est créé entre nous. Pour pas vous le cacher, je suis pas embêté avec eux, ils m'emmerdent pas. Donc ça se passe bien. Ils ont appris à me connaître, comment je fonctionne, et aussi fédérer un groupe, parce que quand je suis arrivé, il y avait un taux d'assiduité très très faible aux entraînements, sur 2 entraînements, moi j'en voulais 3. Donc le fait de fédérer aux garçons ou de proposer des choses à l'entraînement et que les garçons y viennent, voilà, c'est un point très très positif.
Et puis vous évoluez avec de belles infrastructures qui vont encore grandir là.
Ah oui, ça c'est...
C'est bien ça.
Je me lasse pas de le répéter aux garçons. Et, voilà, ils ont... C'est un luxe de d'avoir un synthétique comme ça, terrain en herbe à côté, et ce qui va arriver derrière sur les tribunes. Oui, c'est pas donné à tout le monde pour un petit club de R1, un petit budget d'avoir des installations de cette dimension.
Le championnat de R1 avec Bressuire hier soir qui gagne 2-0 à Chauvigny, avec Buxerolles et Neuville qui se séparent sur le score de parité 0-0, avec Saint-Jean qui bat Rochefort 5-1. Les Bressuirais, 2 buteurs, Batet et puis Mbakebo. Bressuire en tête, mais Bressuire, il est traquenard ce championnat de R1 parce que, vous l'avez dit, quoi, c'est surtout pas un long fleuve tranquille. Et puis après, il y a des play-offs derrière.
Ah bah pour celui qui va finir premier de son groupe, c'est pas un signe de montée, puisque oui, il y a des playoffs avec les 2 autres premiers des autres poules. C'est un chemin de croix quand même. C'est pas parce que vous allez finir premier, peut-être avec 5-10 points d'avance, que vous allez monter en R1, quoi.
Bressuire vous semble solide ou pas?
Oui.
Vous allez aller les titiller?
Bah, on va pas se gêner au match retour, hein, même si ça arrive dans pas longtemps, au mois de janvier. Mais non, ça sera un beau derby. Je pense qu'on sera un peu plus près que le premier match. Voilà, on les attendra fièrement au stade.
Et toi, jouera cet après-midi face à Poitiers pour clôturer ce championnat de R1. En R2, c'est Nintré qui s'incline à Dompierre 5 buts à 1. C'est l'Avenir 79 qui va chercher le point du match nul. 3 partout à Ligugé. Belle perf, c'est bien pour Montcoutant qui s'impose à Périgny 1 but à 0. Les Montcoutantais qui sortent vraiment la tête de l'eau après des matchs où ils avaient encaissé pas mal de buts. C'est la réserve Toircès qui fait match nul 0-0 face à Saintes. Et puis le derby gâtinais entre Parthenay-Viennet et le Talus qui tourne à l'avantage des hommes de Philippe Souchard. Parthenay-Viennet qui s'impose 1 but à 0 cet après-midi. Beaumont-Saint-Cyr qui jouera face au FC Rethet. Et Parthenay-Viennet qui prend la tête de ce championnat, même si Périgny compte un match de retard. En régional 2, dans la poule C, eh bien Échiré-Saint-Gelais a perdu lourdement à Royan-Vaux 4 buts à 0. Défaite également pour Saint-Florent face à Saint-Yrieix 3 buts à 0. Les autres rencontres sont toutes reportées en raison des terrains impraticables. Et puis en régional 3, dans la poule A, une rencontre hier soir, c'est Migny-Auzance qui bavrine 4 buts à 3. Pas mal de reports également. Cerizet ne joue pas, la réserve du FCB non plus. Et puis le Caponis ne joue pas cet après-midi. Un beau match, Inter-Bocage face à Aubin-Rortais. Aubin-Rortais qui va bien dans ce championnat, qui est d'ailleurs co-leader. Et puis Neuville qui sera opposé à Mignaloux-Beauvoir. Et enfin dans la poule B de ce championnat de R3, Buxerolles a battu Noyer 2 buts à 1 et Confolens a battu le Pays Mélois 2 buts à 1. Sébastien, on s'intéresse aux autres résultats dans les championnats régionaux R2, R3.
Oui, jusqu'à la R3, oui. Même la D1, ça m'a. Je regarde, je suis notamment sur les joueurs qui sont partis de chez nous, voilà, et puis ceux qui potentiellement peuvent m'intéresser, il y en a pas mal.
Il y a pas mal. Ouais, vous êtes. Ouais, vous activez toujours le réseau et puis vous allez voir d'autres matchs ou c'est simplement les coups de fil ou.
En début de saison, j'ai pas mal de joueurs qui souhaitaient venir à Nueil et puis pour certains, c'est encore un peu trop tôt. Donc voilà, je vais pas dévoiler mes sources, mais voilà, il y a quelques noms qui sont intéressants pour la suite et dans le projet de soit de joueurs ou du club.
Ouais, vous avez envie de vous inscrire dans la durée?
Oui. Après, le championnat est pas mal difficile. Si on arrive à se maintenir, parce que l'objectif c'est de se maintenir et c'est d'être juste sur la ligne, au-dessus de la ligne de flottaison du maintien. Voilà. Après, ça n'empêche pas d'avoir de l'appétit et de l'ambition. Voilà, sans pour autant affirmer une montée, pas du tout, c'est pas ça. Hein. Mais c'est d'avoir aussi des options de jeu et puis d'avoir une identité de jeu que les garçons, pour l'instant, font correctement.
Ouais, parce qu'on, si, juste pour terminer sur ce championnat de R1, on a parlé de la tête, mais il va y avoir encore beaucoup de descentes.
5.
C'est pas rien, sur une poule de 12.
Ouais, 5. Alors après, le championnat est un peu flou par rapport au match en retard des équipes, il sera un peu plus visible en termes de classement la semaine prochaine. Et en plus, à la reprise, le 6 janvier, nous, on aura notre match de retard contre Neuville. Donc je pense que déjà, la semaine prochaine, on aura une visibilité sur le classement qui sera meilleure.
Ouais, parce que des équipes ont joué 7 matchs, d'autres 8, d'autres 9. Et on a même l'Étoile Maritime qui n'en a joué que 4. Mmh. Donc on imagine le déséquilibre, le classement, il est complètement...
Et pour remettre ces matchs-là, ça va pas être simple.
Hein. Ça va pas être simple. Mais n'empêche que si Neuil-Aubier, on a fait le calcul, hein, facile, hein, si Neuil-Aubier vient s'imposer cet après-midi contre La Rochelle, ça fera plus 3, ça fera 17 points. Ça fera une place de deuxième avec Saint-Jean d'Angély. La mission est toute, enfin l'objectif est toujours... Il est facile à préparer ce match de cet après-midi.
En termes de motivation pour les garçons, oui, par rapport à la série, par rapport à l'objectif, par rapport à cette possible deuxième place, voilà, mais c'est surtout de pouvoir réitérer ce que font les garçons sur le terrain dans l'investissement et dans la qualité du jeu. Alors, si on marque des buts, c'est beaucoup de buts, c'est bien, mais cette deuxième place, elle est à portée de main, oui.
La pause pub dans ce Sport Matin Dimanche. Excellente matinée à tous sur les ondes de Colline. On se retrouve juste après avec notre invité Sébastien Cuvier. Puis on parlera de paratennis et de basket aussi. Et le championnat de foot, c'est la défaite en National 3 de Choret face à Fontenay-le-Comte 2 buts à 0. Et la réserve des Chamois qui perd à Sablé 3 à 0. Voilà pour ces premiers résultats. Et puis la R1 avec la victoire de Bressuire hier soir 2 buts à 0. Et puis Neuil-Aubier qui jouera cet après-midi face à La Rochelle. Les Toircès également joueront cet après-midi. Résultat ce soir à partir de 18h dans Sport Dimanche Dernière. La page basket avec la défaite une nouvelle fois des Choletais face à Bourg-en-Bresse. Les Bressans s'imposent de 10 points, 88 à 78. 6 défaites consécutives pour les Choletais qui glissent au classement. Ils sont désormais 13e. 6 victoires pour 9 défaites. Signal d'alarme évidemment tiré par Laurent Villa à l'issue de cette rencontre. Un Laurent Villa qui se projette sur les 4 rencontres à venir avant Noël au micro de François Larue.
Pour aujourd'hui, comme tu dis, c'est hors sujet par rapport à notre dynamique et par rapport au match de ce soir. Après, de l'inquiétude, non, parce que encore une fois, je sais qu'on peut faire beaucoup mieux. Et comme je disais au groupe, à la fin du match, on a une grosse semaine là de travail justement pour préparer les 4 derniers matchs du mois de décembre avec Blois, Tenerife, Chalon et Le Mans. Et donc c'est cette semaine qu'il faut mettre à profit au maximum avec toutes les intentions et la responsabilisation de tous pour bien s'entraîner, bien préparer le prochain match. Que ça soit sur le jeu, mais aussi mentalement, pour être performant à Blois.
Avec donc cette prochaine rencontre, il vous l'a dit, Laurent Villa face à Blois et face à Michaelet. Retour à la mairesse, ce sera le mardi 19 décembre à 18h, hein, horaire inhabituel pour la Coupe d'Europe. La première place est en jeu face aux Espagnols de Tenerife. Rencontre à suivre sur les ondes de Colline. Basket National 2 avec la défaite des Niortais en déplacement à Garonne, 68 à 60. En National 3 chez les filles, les Choréziennes vont passer les fêtes au chaud. Elles s'imposent nettement face à Vertoux, 94 à 49. Et puis un petit mot de basket également en Régional 3 avec les Bressuirais, les garçons qui s'imposent hier soir et qui du même coup enregistrent leur 9e victoire consécutive, carton plein, certes en Régional 3, mais c'est bien, les garçons doivent être heureux. Ils s'imposent 54 à 48 face à Neuville hier soir. Un petit mot de hand avec en National 1 la défaite des Pouzogets face à Nantes. Le H est venu s'imposer c'était à Nantes, 34 à 23. En National 3 féminine, Praec s'impose à Brive, 30 à 22. Et puis Lezay s'est incliné face à Grand Poitiers, 28 à 21. Grand Poitiers, leader de ce championnat. Praec est pour leur 4e et Lezay est 5e. On parle de paratennis avec le grand week-end qui était du côté du centre départemental de tennis, avec des matchs qui ont lieu en ce moment même, avec un invité, un parrain de renom, c'est Stéphane Houdet, le multiple médaillé olympique, notamment en double. Eh bien, on l'a rencontré vendredi, hein, Stéphane Houdet, qui éprouvait un réel plaisir à être à Bressuire.
Ouais, c'est un grand plaisir et puis surtout que ça rejoint ma philosophie qui est d'éviter le para, les parallèles et de faire en sorte qu'on puisse jouer tous ensemble. Donc là, il y a une initiative autour de asseyez-vous dans un fauteuil, partageons le même sport et jouons ensemble.
On pense d'abord au sport plutôt qu'au handicap.
Oui, tout à fait. C'est aussi comme ça qu'on a changé de nom. Hein. Avant, on parlait de handisport où le préfixe handi était le premier et puis on a changé ça en parasport. Il n'empêche que moi, j'aimerais même aller plus loin et en faire des sports à part entière.
Un Stéphane Houdet qui est un véritable ambassadeur du fameux vivre ensemble.
Moi, je le vis vraiment de l'intérieur. Et puis, vous voyez, je viens de rencontrer cette classe, trentaine d'enfants à chaque fois, quasiment 200 enfants tout à l'heure. Et c'est vrai que ces citoyens de demain, eux, ne font pas de différence. Donc, je peux imaginer qu'on aille vers ce vivre ensemble de façon très, très, très forte.
Avec Stéphane Houdet, on avait envie d'évoquer également la particularité du tennis fauteuil.
Il se trouve que le tennis fauteuil a cette particularité de jouer assis ou à genoux. Pour moi, et en fait, le poids du corps est supporté par la machine, ce qui fait que notre dépense énergétique elle est moindre. On n'est jamais dans le rouge sur le plan cardiaque. On va saturer sur le plan musculaire, mais ça c'est indépendamment des années. Et là où les joueurs vont devoir partir en retraite parce que il y a une usure des quadriceps, plutôt des membres inférieurs, on n'a pas ça quand on joue assis. Et en plus, moi j'ai un deuxième effet positif dans ma condition, c'est qu'une fois que j'ai fini de jouer assis, je mets ma prothèse et je marche. Donc je repose mes membres supérieurs et ça m'évite les pathologies des membres supérieurs qu'un joueur qui est en fauteuil roulant au quotidien pourrait avoir et donc être plus fatigué finalement après le match ou le tournoi parce qu'il a dû enchaîner des déplacements avec les membres supérieurs. Du coup, je mène l'expérience, mais visiblement, je suis encore compétitif et en tout cas, je prends du plaisir avec cette discipline.
Intéressante cette rencontre et ce que nous dit Stéphane Houdet, hein, Sébastien.
Ouais, c'est impressionnant. C'est wow, quelle force mentale déjà, et physique, et voir déjà ce handicap et procurer encore même des émotions quoi sur le sur sport, là, et puis un garçon qui a investi, oui.
C'est vrai, et qui va se préparer, bien sûr, pour les Jeux Paralympiques de 2024. Il avait été suspendu, elle a été suspendue 15 mois par la fédération pour avoir manqué 3 contrôles antidopage sur une période de 12 mois en 2021. Sa suspension a pris effet en mars 2023. Maintenant, focus sur justement ces Jeux, avec un calendrier hyper chargé pour Stéphane Houdet, mais ça lui va bien.
Oh bah là c'est la chance des joueurs de tennis. En fait, on a un calendrier qui est hyper chargé. Donc on va commencer, on suit le soleil, on va commencer en Australie avec la première levée du Grand Chelem à Melbourne. Et puis ensuite on ira jouer à Rotterdam, un gros tournoi pendant la ATP 500 qui s'appelle Rotterdam. Après moi j'ai une heureuse bonne nouvelle qui va arriver bientôt, donc je ne sais pas trop quel sera mon calendrier. Mais sinon c'est États-Unis, Japon, Roland-Garros, Wimbledon.
La bonne nouvelle c'est la paternité ?
Ouais, tout à fait.
La paternité pour Stéphane Houdet. Il est de 1970, c'est vraiment une très très belle année. Ouais, ça vous surprend,
Ah oui, parce qu'à l'entendre, pas du tout.
Oui, oui, il a 53 ans. La belle rencontre avec Stéphane Houdet, et puis on a aussi rencontré, alors là c'est une très très belle rencontre, avec un jeune, il a une trentaine d'années, mais il est jeune dans le paratennis, c'est Julien Texier, il est licencié au TC Bressuire, il est chapelet, c'est quelqu'un de la chapelle Saint-Laurent, et pour lui, il voit vraiment ce deuxième tournoi, c'est sa seconde participation, comme un excellent moment.
Moi, c'est ma deuxième édition. J'ai fait la première édition l'an dernier et je venais juste de commencer le tennis, donc le paratennis, que j'ai appris justement suite à la centre de rééducation Le Grand Feu, qui m'a fait découvrir le paratennis par le biais du club de Choret.
Et vous, Sébastien, on en parlait. Hein. Lui, Julien, il trouve des bienfaits à cette pratique du paratennis.
Moi, c'était juste la fierté de recommencer à faire un sport que j'avais arrêté depuis pas mal d'années, depuis mon accident de 2008 jusqu'à mon amputation en 2022. J'avais rien à repratiquer en sport.
Et alors, quelles sont tes sensations? Comment est-ce que tu vis? On parle d'une renaissance ou pas?
Ouais, bah, d'une renaissance, mais ça vide la tête et tout ça, autre que le travail.
Qu'est-ce qui est le plus difficile? Parce que bon, on joue assis, il y a deux rebonds pour la balle. Raconte-nous.
Donc, c'est les mêmes règles que le tennis normal, sauf qu'il y a juste les deux rebonds en plus. Moi qui aime bien en plus rouler, non, c'est pas là que j'ai le plus de difficultés. J'irais plus à relancer la balle puis à bien placer, que là j'ai pas encore le geste du tennisman.
Tu t'entraînes assez régulièrement?
Une fois par semaine à Bressuire.
Et évidemment, avec Julien, on avait envie de revenir sur ce fameux accident 2008, cette amputation. Alors non pas en 2022, mais en octobre 2021. Écoutez bien, Sébastien, ça va vous intéresser, parce qu'il était footballeur. Notre Julien Texier, explication.
C'est fracture tibia péronée au foot, avec pas mal de contraintes après. 2 jours après mon opération, j'ai fait le syndrome des loges. Donc suite à ça, j'ai fait une infection, donc une septicémie. Donc après, ils m'ont fait une reconstruction osseuse. Et donc ça, c'est sur 2 ans et demi à peu près, de 2008 à 2010, toutes ces opérations. Donc j'ai eu la chance d'avoir un poste réadapté, parce que j'étais plombier chauffagiste, donc j'étais vraiment sur le terrain. Et donc j'ai eu la chance que mon employeur m'a gardé et m'a fait un poste adapté au bureau d'études, que je suis resté de 2010 à 2020. Je suis passé chargé d'affaires par la suite. Et en 2021, suite... alors je sais pas si c'est dû à ça, mais 2 jours après mon vaccin Covid, je refais une infection de ma jambe. Et c'est là que j'ai pris la décision de l'amputation.
Sans regret?
Non, pas de regret. Puis je ne changerai pas tout ce qui a changé. Pour moi, je ne regrette rien. À un moment, on me l'avait annoncé à la septicémie. Le chirurgien m'avait annoncé comme quoi il m'avait sauvé la vie, qu'il ferait tout pour me sauver la jambe. Donc je ne regrette rien que de ne pas m'avoir fait amputer plus tôt ou quoi que ce soit. Non, non, je ne regrette pas tout ça.
Je vous avais dit que ce Sport Matin Dimanche, c'était tranche de vie. Mmh. On aurait pu l'intituler tranche de vie. Mmh. Sacré témoignage, hein,
ouais,
Sébastien.
Témoignage, oui. Quand on entend ça, des fois, on n'a pas besoin de se plaindre de pas grand-chose.
Et l'employeur, j'ai envie de le signaler, l'employeur de Julien Texier, parce qu'il évoque évidemment que cet employeur ne l'a pas lâché, c'est Jean-Paul Auger. Le bienfaiteur Jean-Paul qui a gardé Julien avait dans son staff et dans son équipe. Voici pour ce paratennis du côté de Bressuire.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Alors d'autres garçons impressionnants également. D'abord Hugo Hay, hein, tout à l'heure 15h15, vous avez l'horaire, championnat d'Europe de cross en Belgique. avec peut-être une perf pour cette équipe de France et pourquoi pas pour Hugo. En tout cas, il se sent plutôt en forme à quelques heures de ce championnat d'Europe. Il est presque chez lui là-haut en Belgique. Il est venu en métro. Hein. Il a pris le transport en commun pour retrouver l'équipe de France. Et puis un autre champion également, hein, 61 ans, c'est Pascal Vergniaud qui signe une sacrée performance du côté du marathon de Valence en Espagne. C'était la semaine dernière. C'était dimanche dernier, au moment même où on vous parlait la semaine dernière dans ce Sport Matin Dimanche. Eh bien, Pascal Vergniaud signe à 3h34. Il nous raconte son marathon.
Oui, j'ai 61 ans, en effet, 3h34 à Valence. Je suis parti avec mes beaux-frères, on est parti sur les bases de 3h45, 3h50. Après avoir passé 3 km avec eux, bah, j'ai décidé de partir tranquillement, ce qui m'a permis de faire un temps un peu plus bas que les 3h45.
Mais c'est un super temps.
Bah, c'est un super temps. Disons que j'allais là-bas, c'était pas pour faire un chrono, c'était surtout pour le plaisir de courir entre nous et puis de découvrir un peu Valence, parce qu'on m'avait dit que Valence était une superbe ville.
On en reparlera tout à l'heure. Mais tu partais pas dans les meilleures conditions parce que t'étais quand même pas au top.
En effet, oui, j'étais pas dans les meilleures conditions. Je l'avais pas préparé correctement puisque j'avais fait une seule sortie longue. Mais bon, c'était après Millau, puisque j'avais fait le marathon de Millau, donc j'avais quand même des restes et j'avais décidé d'aller le faire surtout pour le fun.
Ça, c'est aussi impressionnant, hein, Sébastien.
61 ans.
Oui. Mmh. Ah, mais il court comme il respire, hein. Enfin, moi, je le connais un petit peu. Je m'entraîne jamais avec lui. Hein. Le seul point commun, c'est quand on est ensemble dans les vestiaires. Mais autrement, il est inarrêtable, ce garçon.
Chapeau.
Et un marathon qu'il a très, très bien vécu, d'ailleurs.
Puis, au fur et à mesure, bon, je suis resté sur un rythme aux alentours des 5:05. Bon, ben, comme tout marathon, les derniers kilos, c'est toujours un peu plus compliqué quand même. Donc, on va dire que les trois derniers, je me suis arraché. Mais à l'arrivée, bon, ben, tout s'est bien passé, quoi.
Tu es arraché parce que tu savais que tu allais faire un bon temps aussi. Ça valait le coup?
Je me suis arraché parce que je me suis dit 30 secondes de moins, une minute de moins, c'est toujours intéressant. Donc il faut le prendre.
Il faut le prendre. Alors il est parti avec ses beaux-frères, mais il a très vite pris la poudre d'escampette. Hein. Serge, l'un de ses beaux-frères, a fait 4h19 et puis Jean-Yves 4h42. Et alors le pire, vous allez voir Sébastien, c'est qu'il a envie d'y retourner à Valence.
C'est un super souvenir et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner parce que franchement, le Valence, c'est extra pour faire un marathon. En plus, les gens sur le parcours sont très très intéressants. On est encouragé en permanence avec des porte-voix, des choses qu'on voit pas chez nous, en effet.
La vraie ambiance espagnole, alors pour l'ambiance du marathon et puis aussi pour la ville, il a envie d'y retourner.
On a pris le temps d'y aller, on est parti le mercredi, on est revenu le lundi, donc c'était presque des vacances, on va dire. Hein.
Avec une belle découverte, Valence.
Une ville vraiment très agréable à visiter, et si j'avais un conseil à donner à ceux qui veulent faire un marathon à l'étranger, allez-y au moins une fois, parce que ça vaut le coup d'œil.
Alors moi, le conseil que je vous donne, c'est que si vous avez envie de passer du bon temps sans faire un marathon, hein, allez à Valence. Vous connaissez Sébastien?
Non.
Un nom de Valence, allez-y, c'est hyper. Et puis alors, Valencia, c'est une ville, waouh. On parle de Barcelone souvent sur cette côte méditerranéenne, mais allez un tout petit peu au sud, là, Valence, et vous serez complètement émerveillé par cette ville qui gagne à être connue, sauf que les Valenciens n'ont pas trop envie qu'on fasse de la pub, parce qu'ils aiment bien rester entre eux, mais elle est vraiment magnifique, cette ville. Sacré témoignage, là, encore. Hein.
Oui, là aussi, oui. Puis quel défi. Défi personnel, c'est repousser ses limites. Impressionnant.
Merci beaucoup, Sébastien.
Merci à vous.
Merci, on a passé un très très bon moment. J'espère qu'il en a été de même pour vous. Sébastien Cuvier, l'invité fil rouge de ce Sport Matin Dimanche. Et puis, victoire cet après-midi. Hein.
Oui.
On se cale un petit rendez-vous téléphonique après la rencontre.
Pas de problème.
Ok, super. À partir de 18h, on aura l'entraîneur du FC Neuilly-Aubier avec, espérons-le, cette victoire. Les garçons, on ne s'enflamme pas, mais je suis sûr. Oh, qu'est-ce que j'aimerais être une petite souris pour écouter le discours. Il doit être transcendant, ce Sébastien Cuvier, dans les vestiaires.
Je remercie les joueurs. Si je suis là, c'est aussi grâce à eux et à leur travail.
Merci beaucoup. Merci Hugo pour la préparation de ce Sport Matin
Merci
Dimanche.
Quel marathon.
Ouais, c'est vrai, mais on a plutôt bien géré. On a plutôt bien géré. Merci aussi à Fabien pour le son de Pierre Grelier. Voilà, vous l'avez compris. Colline, c'est une sacrée belle équipe. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Bonne matinée. Et puis bon dimanche. À ce soir, 18h avec plaisir. Hugo est 15h15. On n'oublie pas.